100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Déclaration en prélude de l'Assemblée générale des Nations unies. Conférence européenne à Bratislava. La plus grave crise migratoire qu'ait connue le monde depuis la Seconde Guerre mondiale suscite beaucoup de déclarations de bonnes intentions, mais pas forcément d'engagements concrets sur la relocalisation, l'accueil, l'éducation. Du concret, c'est justement ce que raconte la journaliste britannique Emma Jane Kirby dans son livre « L'opticien de Lampedusa ». Un récit sur l'entraide, sur la découverte du drame humain qu'est cette crise migratoire. Ce livre est en fait le prolongement de son reportage pour la BBC, couronné par le prix Bayeux. À travers la figure d'un héros ordinaire qu'elle a rencontré, elle parle aussi de l'aveuglement du monde. C'est ce qu'elle a expliqué à Catherine Rolland.
C'est un personnage qui existe. Ce monsieur, je le nomme jamais dans le récit. Et je l'ai fait parce que c'est un homme qui est monsieur tout le monde, si vous voulez. Il ressemble à nous. C'est un homme très ordinaire, très ordinaire. On sait très bien qu'on voit les choses chaque jour, qu'on ne veut pas vraiment confronter. Alors on décide de rester aveugle. Et voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais ce monsieur, il existe. Évidemment, en fait, j'ai prolonger le reportage que j'ai fait. J'ai voulu approfondir ce sujet pour provoquer une prise de conscience le plus large possible sur ce drame et sur leur responsabilité, notre responsabilité avec cette tragédie.
Oui, notre responsabilité commune en fait. Est-ce que vous aviez l'impression que finalement vos reportages ne touchaient pas assez le public, que finalement c'était des reportages noyés au milieu de l'actualité, et c'est pour ça que vous avez choisi la voie du roman pour porter vraiment votre message plus loin?
En fait, le reportage, on n'a jamais eu autant de lettres et autant de mails. Tout le monde était hanté par cette histoire, parce qu'ils se voyaient eux-mêmes dans le bateau. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller un peu plus loin. J'ai décidé de me mettre dans le peau de l'opticien pour le récit, pour faire autre chose, pour approfondir le sujet.
Justement, on va raconter un peu l'histoire de cet opticien qui décide de partir avec ses amis à bord d'un voilier pour une petite croisière, et voilà, et qu'est-ce qui lui arrive, hein, vous allez le raconter.
Ils étaient 8 sur le bateau, l'opticien, sa femme et 6 amis, voilà, ils étaient là juste pour se reposer un moment, et puis le matin, ils ont entendu les cris de mouettes, mais les mouettes qui crient vraiment fort. Ils commençaient à s'inquiéter, ils ont levé l'ancre, ils sont allés vers le brick, et là, ils croyaient qu'ils ont vu des poissons, des gros poissons noirs dans l'eau, mais plus qu'ils approchaient, plus qu'ils ont bien distingué que ces poissons avaient les jambes, les visages, les bras. En fait, c'était les êtres humains dans l'eau. Il y avait les vingtaines, les centaines de gens dans l'eau. Et eux, ils étaient déjà 8 sur un bateau qui est conçu pour 10 personnes maximum. Ils avaient une seule bouée de sauvetage.
Oui, donc en fait, confrontés d'un seul coup à des centaines de personnes en train de se noyer, et ils font ce que normalement la solidarité en mer demande. Ils vont essayer de sauver le plus possible de ces migrants, de ces réfugiés qui sont en train de se noyer.
Tout à fait. Et la première question, je me souviens, l'opticien s'est posé, c'est comment on va les sauver tous ? Et évidemment, c'était pas possible de les sauver tous. Finalement, ils ont réussi de sauver 47 personnes. Mais l'opticien et ses amis, évidemment, ils sont hontés par le fait qu'ils sont pas arrivés de sauver tout le monde. C'était pas possible.
Et la grande majorité des gens sauvés sont des hommes. Les noyés, ce sont les femmes et les enfants, en fait. Et c'est ça aussi qui les hante.
Oui, tout à fait. On sait très bien que les migrants qui sont survécus, ils ont raconté leur histoire, ils ont dit que les femmes et les enfants étaient en bas. Et voilà, quand le bateau s'est retourné, elles avaient aucune chance de survivre.
Alors évidemment, l'opticien et ses amis sont accueillis en héros. Et ils se prennent en fait de plein fouet l'actualité, cette actualité dramatique, justement ce flux de migrants qui se déverse vers l'Europe.
Et lui, je dois dire, il veut absolument pas être traité comme un héros. Il dit, je suis pas héros moi. Il m'a répété cette phrase tout le temps, j'ai voulu retourner. Et quand il répète cette phrase, je crois qu'il veut me dire aussi qu'il a voulu aller en arrière et de voir un peu plus tôt ce qu'il n'a pas vu, parce qu'il était aveugle à ce problème avant.
Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux? Est-ce qu'ils se préoccupent plus des réfugiés aujourd'hui? Au contraire, ils ont voulu essayer de tout évacuer?
En fait, ils voient chaque année quelques migrants qui sont sauvés. Chaque année, ils les voient, ils les promènent en bateau, ils font une petite cérémonie ensemble, et c'est très très important pour eux, pour les 8, de faire ça. Alors, ils gardent contact avec ceux qu'ils ont sauvés. Mais c'est sûr qu'ils sont toujours hantés par cette histoire. Ça a complètement bouleversé leur vie.
L'opticien de Lampedusa est paru aux éditions Équateur. Les législateurs espagnols voulaient faire de ce texte une loi de réparation historique, accorder la nationalité espagnole aux descendants des juifs séfarades chassés de son territoire au XVe siècle. Hélas, les procédures sont tellement complexes que seules quelques milliers de personnes ont fait la demande. À Madrid, François Musso.
On estime qu'il peut y avoir de par le monde un demi-million de juifs séfardis, c'est-à-dire de juifs descendants de ceux qui furent expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques avant de s'établir autour du bassin méditerranéen. Sur ce demi-million, les autorités espagnoles pensaient qu'environ 100 000 pourraient être intéressés par une offre. Cette offre, c'est une initiative de réparation historique. En substance, elle signifie « Nous regrettons l'expulsion de votre communauté au XVe siècle et comme façon d'exprimer notre repentance, voici une loi qui permet à tout descendant de ces expulsés de récupérer la nationalité espagnole. Une nationalité non exclusive, ce qui concrètement veut dire qu'on ne perd pas sa nationalité d'origine. Cela, c'est le texte, l'esprit de la loi, mais les résultats, eux, sont désastreux. 2424 pétitions au total, pas une de plus, et seulement 225 en Israël. Ridicule. La raison principale, c'est l'incroyable complexité des démarches administratives requises. Car il faut, au bas mot, connaître le ladino, la langue originelle des séfarades, disposer d'un certificat délivré par la Fédération séfarade mondiale, montrer un certificat de naissance qui prouve le lignage réel et obtenir un de ces documents est un parcours du combattant et une fois obtenu, les difficultés continuent avec un voyage obligatoire en Espagne, un passage devant un notaire, des frais de dossier de 3000 à 5000 euros, un examen de langue espagnole et de connaissance du pays, etc. La loi partait sûrement d'un bon sentiment, mais les exigences sont, de l'avis général, décourageantes.
Faut-il revenir aux écoles pour filles et aux écoles pour garçons? Au Royaume-Uni, de nombreux parents et divers pédagogues le croient, la mixité ne serait pas une bonne chose, disent-ils. Et ils mettent en avant les bons résultats des dizaines d'écoles non mixtes qui ont pignon sur rue. Reportage sur un phénomène typiquement british avec Marie Billon.
Alexander a 14 ans. Quand il revient un week-end chez sa mère à Londres après avoir passé entre 2 et 3 semaines en pensionnat, il profite du calme de sa chambre. Il Skype quelques amis, mais c'est surtout avec des filles qu'il a envie de traîner. L'adolescent est dans une école non mixte dans l'est du pays et il n'aime pas ça du tout.
Je préférerais être dans une école mixte, car les garçons, c'est à la fois embêtant et ennuyeux. Embêtant parce que tout le monde se déteste et ennuyeux parce qu'on finit toujours par faire les mêmes activités. La vie est fade et ça marche pas. Au lieu de flirter, on est tous en compétition les uns avec les autres.
C'est Florence, sa mère, qui a tenu à ce que son fils aille dans une école non mixte au moins jusqu'à ses 16 ans.
L'an dernier, on a diagnostiqué chez Alexander un syndrome d'Asperger et une dyspraxie. Pour lui, c'est plus simple d'interagir avec des femmes parce qu'on a tendance à plus montrer nos émotions sur le visage. Je trouvais donc important qu'il apprenne à se sociabiliser avec les garçons.
Face aux réticences d'Alexander, sa mère a essayé de trouver un compromis, mais cela n'a pas fonctionné.
There's a school nearby.
Nous avions envisagé de l'envoyer dans une école non loin de chez nous qui accueille filles et garçons, même si les classes ne sont pas mixtes. Ils sont ensemble à la récréation et dans les cours d'art plastique, par exemple, mais c'est tout. Les filles et les garçons se développent différemment et à des vitesses différentes. À un certain âge, c'est mieux qu'ils soient chacun de leur côté. Mais j'aime l'idée qu'ils soient dans un même établissement et qu'ils puissent quand même apprendre à vivre ensemble.
To learn how to socialize. Ce sont souvent les parents qui font le choix de ce type d'école. Parfois, ils choisissent simplement le meilleur établissement ou juste le plus proche, sans faire attention au fait qu'il n'est pas mixte. Ces écoles sont tellement nombreuses qu'elles font désormais partie du paysage sans susciter de controverses majeures. Tanny Grammar School, dans la région du Kent, au sud de Londres, est une école pour filles de 10 à 18 ans. Les garçons sont cependant acceptés en toute dernière année. Ils sont donc ultra minoritaires dans cet établissement spécialisé dans les nouvelles technologies et les sciences. Danielle a 16 ans, elle y est inscrite depuis 5 ans et elle aime bien n'être entourée que de copines.
C'est mieux pour moi d'être dans une école de filles, comme ça je ne suis pas distraite par les garçons. Et puis entre filles, on se comprend, c'est plus facile de parler et de se faire des amis. Il y en a certaines qui sont des pestes, qui lancent des rumeurs, ce genre de choses, mais en fait, c'est pareil dans toutes les écoles.
Ce qui dérange les familles qui sont contre les écoles non mixtes, c'est qu'elles ne sont pas le reflet de la réalité. Dans leur vie d'adulte, Danielle et ses amis devront travailler avec des hommes, mais selon la jeune fille, il n'y aura pas de problème.
Je me sens préparée pour le monde des adultes, car dans le quartier, il n'y a pas que des écoles pour filles. Certaines sont mixtes, et je suis amie avec des garçons, on se voit après les cours.
C'est aussi l'opinion du directeur de Tanley Grammar School, Desmond Dehan.
Une partie de notre travail consiste à préparer ces jeunes filles à la vie professionnelle et au fait que nous vivons dans un monde encore dominé par les hommes. Et grâce à l'éducation que nous leur donnons, elles auront plus confiance en elles face à des collègues masculins parce qu'elles auront le temps de développer et de cultiver leur personnalité, leurs opinions, leur estime d'elles-mêmes avant.
Tanley Grammar School est spécialisée dans des matières qui ont la réputation d'être pour les garçons. Informatique, sciences et les adolescentes vont pouvoir tester leurs acquis avant d'aller à l'université à Tanley Grammar School puisqu'elles seront en cours avec des garçons pour la toute dernière année.
Au détour d'une ruelle dans le vieux Palerme, en Sicile, on trouve une scène insolite. Des milliers de livres empilés sur des étagères le long de la voie. C'est la bibliothèque à ciel ouvert de Pietro Tramonte, un retraité qui s'est consacré à sa passion, faire découvrir des livres accessibles grâce au troc ou à quelques euros. C'est le reportage de Cécile Debarge.
Si Pietro Tramonte demande à ses jeunes clients de se pousser, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de place dans la petite ruelle qui mène à la place Monte Santa Rosalia pour que les voisins y faufilent leur voiture ou leur moto. Sur les pavés, adossés au mur des maisons, des milliers de livres ont fait de l'endroit une immense bibliothèque à ciel ouvert.
En fait, j'ai d'abord amené ici près de 5000 livres que j'avais chez moi et qui, pour ma femme, étaient juste bons à prendre la poussière. Mais pour nous, les amoureux des livres, c'est de la poussière de diamant. Et les palermitains, en voyant tous ces livres, ont commencé à me dire « Monsieur Pierrot, on peut vous amener les nôtres ?» Et petit à petit, il y a maintenant entre 50 et 60 000 livres.
Monsieur Pierrot, c'est en réalité Pietro Tramonte, retraité depuis 3 ans et demi.
Une fois que tu pars à la retraite, tu fais quoi? Tu te mets à regarder la télé, à te disputer avec ta mère, à te disputer avec ta femme? Non, moi je me suis tranquillement installé ici.
Au début, il occupe un petit local attenant à la place où il entrepose ses premiers livres.
Il n'y avait rien, juste le petit débarras qui fait quelques mètres carrés. C'est juste qu'après, il s'est saturé et donc tout doucement, on est arrivé ici.
Tout simplement donc, les livres commencent à envahir la rue. Une idée loin de déplaire aux voisins qui l'ont immédiatement adoptée.
Quand j'arrive le matin, le voisin du premier étage me dit « Monsieur Pierrot, vous voulez un petit café ?» Et il me le descend avec un panier, comme ça se faisait autrefois. Ou bien à midi, « Monsieur Pierrot, vous voulez un plat de pâtes ?»
Un jeune touriste, short et t-shirt blanc, s'approche, livre à la main. Dans son anglais bricolé, Pietro Tramonte explique le concept du lieu à ce jeune Indien. C'est lui qui décide du prix en donnant ce qu'il veut pour acheter le livre. Le jeune homme est étonné et ravi de sa trouvaille.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit en Afghanistan avant qu'il y ait tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, ça raconte comment il a réussi à aller en Amérique. J'avais entendu parler de ce livre, je voulais lire, et là, je l'ai vu par hasard.
It was on my list of things to read, so thank you so much, yeah. Ciao.
Grazie.
Bye.
Martina, elle, vient pour la première fois avec son ami Domenico, un habitué des lieux.
Moi, j'ai fait un petit tour parce que je cherchais un livre en anglais. J'ai ramené un livre que j'ai déjà lu, et comme ça, je l'échange avec un nouveau livre, en anglais cette fois.
Pietro Tramonte sourit, il sait que sa bibliothèque est la seule de la ville où l'on troque et où les prix sont au choix des clients. C'est peut-être aussi pour ça que le soir venu, il ne craint pas de laisser les dizaines de milliers de livres à la merci de tous, simplement recouverts de grandes toiles de tissu, dehors.
Tu peux alzare un telon, hein?
Bien sûr, tu peux lever l'un des rideaux pour y prendre ce que tu veux, mais ce serait un peu une chose anormale, comme si un homme mordait un chien, et ça viendrait à se savoir. Du coup, je suis sûr à 100% que si ça se produisait, le lendemain, les palermitains viendraient m'apporter de nouveaux livres.
Aucun livre n'a été volé en 3 ans et demi, et des dizaines de milliers d'autres ont été offerts gratuitement par des habitants qui ne savaient plus quoi en faire. Le bibliothécaire improvisé a même dû en refuser, faute de savoir où les stocker. C'est ce chaos qui séduit Domenico, qui en est à sa 6e ou 7e visite de la bibliothèque.
Le fait qu'il y ait autant de désordre, quand je viens ici, c'est comme si les livres m'appelaient. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois à dénicher des titres inattendus, comme ça, à force de chercher sur les rayons. Ça n'a rien à voir avec une librairie classique ou avec des rayonnages rangés par genre, par exemple.
Et au milieu de vieux journaux et de partitions de musique du siècle dernier, certains font parfois de drôles de découvertes, raconte Pietro Tramonte.
Une fois, un homme a pris un annuaire téléphonique de Catane et soudain, je le vois pleurer. Alors, c'était pas pour me mêler de ses affaires, mais je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il m'a répondu qu'il venait de retrouver le nom de son grand-père qui avait un magasin à Catane via Etnea il y a bien longtemps de cela.
Pietro raconte aussi ce couple de retraités d'environ 70 ans qui se sont émus en retrouvant le premier livre que le mari avait offert à sa femme à l'époque. Mais déjà, à 19h, il est temps de fermer boutique, car dès le lendemain, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Pietro Tramonte relèvera les petits bouts de tissu qui protègent ses étagères et transformera en quelques minutes à peine la rue en bibliothèque.
C'est sans doute une des dernières capitales européennes où l'on peut assister à ce phénomène des charrettes tirées par des chevaux en plein centre-ville de Sofia. Mais la municipalité veut se débarrasser de ces véhicules d'un autre âge qui peuvent être dangereux. Récit depuis la capitale bulgare, signé Damien Vodenicharov.
Que ce soit dans les quartiers chics ou dans les quartiers populaires, dans les banlieues ou en plein centre, à Sofia, on peut voir les charrettes dans tous leurs états. Des charrettes pleines de ferraille ou d'électro des charrettes qui bloquent la circulation dans la voie de gauche ou même des charrettes en course-poursuite avec des voitures de la police. Les charrettes sont utilisées surtout par les sofiotes les plus pauvres, des Roms pour la plupart, mais elles sont avant tout dangereuses pour le conseiller municipal Simeon Slavchev.
Sofia se veut une capitale européenne, mais la circulation des charrettes est interdite dans toutes les autres capitales européennes. Elle pose avant tout de sérieux problèmes à la sécurité routière. Les charrettes salissent également les rues et gênent le trafic.
Les autorités municipales craignent cependant que ces décisions ne soient très difficiles à appliquer. À Plovdiv, la première ville bulgare a tenté de mettre les charrettes hors service. On peut toujours en croiser le long des boulevards. Le centre de Sofia est aussi censé être interdit aux voitures à cheval, avec des amendes de l'ordre de 250 euros. Sans grand effet, se plaint Risto Apostolov, maire du quartier de Krasnapoliana.
Le problème, ce n'est pas la charrette, c'est le cheval. Quand il y a un cheval, il y a un problème. Pas de cheval, pas de problème. Les animaux n'ont aucune documentation. On ne sait pas s'ils sont sains ou malades.
Et ce sont justement les chevaux qui mettent des bâtons dans les roues de la police. Les agents ne savent tout simplement pas quoi faire des animaux. Ils demandent des soins et ne peuvent pas être saisis et mis en fourrière.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site internet rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe. À demain.